des choses.
Un filet de bœuf en croûte de sel.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter?
Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez? Tarte pâtissière aux fruits rouges, Château Rayas 1969.
Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde et bonne année à tous. Je nous la souhaite cette année surprenante, curieuse, solidaire, bouillonnante et délicieuse évidemment. Qu'il y ait du bon dans la marmite et du monde autour de la table, de la chaleur, des amis, des voisins, des soirées qui s'étirent et se goûtent au fil des histoires et des goûts du monde. Le goût, la vie de notre invité, c'est un peu son affaire. Le goût, justement, de bon sens. Il a la cuisine dans la peau, la passion pour métier et la gastronomie qu'il partage et transmet avec sincérité et amour toujours. Bonjour Guillaume Gomez.
Bonjour.
Alors nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour commencer cette année 2022, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être vous découvrent, je vais juste rappeler que vous êtes un cuisinier et pendant 25 ans, vous avez mitonné dans les cuisines de l'Élysée, des pigeons au foie gras en croûte, des pommes moulées Élysée, des barons d'agneau de Sisteron, poulards de farci, des cassolettes de canard et une petite mousse chocolat aux truffes. Ça c'était pour nous mettre en appétit. Forcément. Quel goût à la France, Guillaume Gomez, vous qui avez servi au Palais de l'Élysée pendant 25 ans?
Alors la France, elle a le goût, une fois de plus, de celles et ceux qui la font. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir ce terroir qui est unique au monde. On n'a pas un autre pays dans le monde qui peut nous offrir une telle variété, une telle différence de goût, de couleur, d'arôme des produits. Vous savez, entre le nord de la France, le sud de la France, l'est et l'ouest, la cuisine ne se ressemble pas parce que les produits ne se ressemblent pas. Donc la France, elle a ce goût de ses régions, de ses territoires et de celles et ceux qui la font. Et quand vous avez l'opportunité et la chance de pouvoir voyager à travers le monde, vous vous rendez compte que, en effet, cette France, elle n'a pas le même goût que les autres pays parce qu'on a des savoir-faire, on a des producteurs, on a des agriculteurs qui n'ont pas du tout la même façon de travailler et qui ne nous propose pas les mêmes produits tout simplement. Donc cette France, elle est vraiment très variée en termes de goût.
Et cette richesse et cette variété, on en est conscient, vous pensez ?
J'espère, on essaye de le répéter depuis de nombreuses années, parce que vous savez, si la gastronomie française, elle a la renommée qu'elle a à l'international et à travers le monde, bien sûr, c'est grâce aussi à nos artisans, à nos chefs, à nos pâtissiers, à nos cuisiniers, à nos vignerons qui s'exportent à travers le monde, mais c'est avant tout grâce à ce sol, grâce à ce terroir, à ce territoire qui est unique. Une fois de plus, il n'y a pas un pays qui peut vous offrir une telle pluralité de produits, de goûts, dans sa diversité, en fonction des saisons, que la France.
Guillaume Gomez, vous avez été nommé ambassadeur de la gastronomie de la France. Vous êtes le premier ambassadeur, je crois, de gastronomie d'un pays. Et vous êtes le représentant spécial d'Emmanuel Macron, le président français, pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Votre rapport à la cuisine ? Vous êtes tombé comment dans la marmite, vous ?
Je pense par gourmandise, comme toutes celles et ceux qui se dirigent vers ça. Alors, je n'ai pas, comme mes copains chefs, une histoire Madeleine de Proust avec une grand-mère qui me faisait bien à manger. Mes grand-mères, paix à leur âme, n'étaient pas des fins cordons bleus, mais c'est vrai que j'ai toujours été gourmand. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine, puisque j'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai une photo où j'ai 3 ans, je suis en grande section de maternelle, on doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard. Au milieu des princesses, des cow-boys et des pompiers, je suis déjà habillé en cuisinier. Mes parents n'ont pas su me dire pourquoi est-ce que j'avais voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça, et ils pensaient peut-être que ça allait passer, et c'est jamais passé. Quand j'ai eu l'âge de me diriger vers ce qui était un apprentissage, je vous rappelle que j'ai commencé la cuisine il y a plus de 30 ans, c'était moins à la mode aujourd'hui. Hein.
Mais c'est bon. Ce que vous dites d'ailleurs dans les dédicaces à vos parents dans vos livres.
Ouais.
Vous les remerciez de vous avoir laissé.
Ouais. C'était vraiment pas pour vous donner un exemple très concret. Mon professeur de mathématiques, avec qui je fais de la publicité depuis plus de 30 ans, qui s'appelait Monsieur Tornadigio, qui, je pense, pensait bien faire, convoque mes parents en leur disant : vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Parce que j'avais des bons résultats scolaires et que j'avais mon passage en seconde et qu'à l'époque, n'allaient faire de la cuisine que celles et ceux qui rataient mécanique. Et c'était plus qu'une voie de garage. Et on a, je dis on parce que je pense que l'exemple de tous ces artisans et de tous ces passionnés, quels qu'ils soient dans ces métiers de bouche, ont prouvé à travers ces différentes décennies que c'était pas un métier que l'on subit, que c'est un métier que l'on a choisi et que la voie royale de l'apprentissage est une filière d'excellence. Et on parle souvent d'ascenseur social, c'est un ascenseur social qui fonctionne.
Et vous en êtes un très 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 bon exemple.
Et j'en suis un exemple.
Très souvent, le terme gastronomie, gastronomique, ce sont deux notions qu'on ne comprend pas ou qu'on ne saisit pas. Quelle serait la différence entre les deux quand on parle de gastronomie française ?
La grande différence, c'est que souvent, gastronomique, il y a un côté un petit peu élitiste, très beaux produits, on pense tout de suite aux grands restaurants, aux grands produits, aux grands vins, alors que la gastronomie, c'est notre quotidien.
C'est notre cuisine.
La gastronomie, elle doit être accessible à tous et partout. Et chaque Français doit bien manger du petit déjeuner jusqu'au souper. Ça doit être des bons produits, ça doit être en fonction bien évidemment de ses moyens et de la région où on est, mais trouver des produits de saison, trouver des artisans qui font du travail de qualité au juste prix sur tout le territoire de France, c'est possible. Donc voilà, c'est comment est-ce que quand vous passez la porte d'une boulangerie, vous avez du bon pain, comment est-ce que quand vous allez chez votre artisan charcutier, boucher, il vous sélectionne les bonnes viandes au juste prix, en fonction des saisons, pareil chez votre primeur et ainsi de suite, pour que vous puissiez manger au juste prix toute l'année des bons produits.
Dans votre livre, décidément, vous en avez publié que certains,
oui.
dont un qui est resté un peu dans les annales, qui est La cuisine de pas à pas, oui. qui était préfacé par deux grands chefs, Paul Bocuse et Joël Robuchon. Je voudrais juste citer ce que dit Joël Robuchon de vous dans ce livre. Son livre est l'école même de la simplicité, quand le talent et l'amour du travail bien fait s'en mêlent. Il exprime un retour aux gestes originels, des recettes traditionnelles comme on les aime dans nos provinces de France. Œuf meurette, œuf mimosa, poulet rôti, bœuf bourguignon, quiche lorraine, pâté en croûte, magrette canard, pigeon au foie gras, blanquette de veau à l'ancienne, pot au feu, chou vert farci, riz de veau au mori, gigot de 7 heures, écrevisse gratinée au sabayon de champagne, je sais vous avez faim, quenelle de brochet à la lyonnaise, pommes soufflées, gratin dauphinois, fricassés de cèpes, etc. On les voit, on les sent, on les respire, on en garde encore le goût en bouche. Autant de madeleines de Proust qui nous renvoient à l'enfance, aux repas de famille, de fêtes, d'anniversaires, de communions, de mariages, célébration de moments heureux dans une France sereine que nous voulons éternellement gourmande. Est-ce que c'est ça, la gastronomie ? Dans sa simplicité aussi.
Exactement. La gastronomie française, ça doit être ça. Ça doit être, en fonction de là où vous vous trouvez, en fonction de la saison, des bons produits, des bons plats, une bonne cuisine qui, avant tout, prend soin de vous, de votre santé, prend soin de l'autre et prend soin de l'environnement. Et je pense que dès que vous avez ce triptyque-là, vous avez la définition de la gastronomie française. Et pour reparler de Joël Robuchon et de la préface qu'il m'a fait, ainsi que Paul Bocuse, ils m'ont porté chance. Ça a été un petit peu, mes mentors et mes parrains dans cette profession. Ils m'ont fait l'honneur et le privilège d'accepter de co-préfacer un livre. Ils ne l'avaient jamais fait, de co-préfacer tous les deux un livre. Malheureusement, c'est leur dernier écrit officiel puisqu'ils sont décédés l'année de la sortie du livre, tous les deux. Et ça m'a porté chance qu'ils m'aient préfacé ce livre puisque ce bouquin de cuisine, Le Son Papa, était élu meilleur livre de cuisine du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait référence encore dans les écoles.
Et l'amitié qu'il vous porte, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on découvre que vous avez traîné devant le restaurant de Joël Robuchon.
Les jeunes ne se rendent pas compte aujourd'hui. Je leur dis la chance que vous avez. Vous savez, on parle des réseaux sociaux, on parle de tout ça. La chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir accéder à toutes ces cuisines du monde, virtuellement peut-être, mais en tout cas, ils ont le lien entre les émissions de télé, entre les comptes Instagram des chefs. Vous pouvez voir la cuisine des chefs, vous pouvez rencontrer les chefs, vous pouvez faire tout ça. À mon époque, ça fait le vieux crouton qui parle, mais moi, il y a 25 ans, il y a 30 ans, quand je voulais rencontrer un chef, fallait que je prenne mon vélo ou le métro, puis que j'aille devant le restaurant, puis que j'attende qu'il sorte. Parce que bien évidemment, j'avais pas les moyens d'aller manger chez Joël Robuchon. Et sa cuisine, je pouvais la voir qu'à travers les livres de cuisine. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'émissions de télé, très, très peu. Et donc, c'était ça. Et si je voulais rencontrer Joël Robuchon, fallait que j'aille attendre à la sortie de son restaurant. Et je l'ai fait quelques fois pour pouvoir un jour le croiser, juste le saluer. Et on en a parlé à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que dans la préface, il fait mention de
ça. Et il regrette que vous n'ayez pas poussé la porte.
Exactement.
Alors là, on est dans la gastronomie gastronomique. Revenons à la gastronomie. Qu'est-ce qui va faire que l'on connaît sa gastronomie et sa cuisine ? Que le bien manger pour la terre, pour l'environnement, pour tous, qui sont les piliers de ce changement ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement retrouver un petit peu de bon sens. C'est-à-dire que la gastronomie, c'est quelque chose de simple. Ça ne doit pas être compliqué avant tout. C'est-à-dire que les gens qui me disent « oui, mais non, mais ça, je ne sais pas cuisiner, c'est très compliqué », il n'y a rien de compliqué. Personne ne naît en sachant cuisiner. Donc il suffit juste, bien sûr, d'avoir quelques bases, d'écouter. Alors, ça peut se faire dans les familles, ça peut se faire ailleurs. Moi, je milite depuis de nombreuses années pour qu'il y ait des cours de cuisine obligatoires à l'école, pas pour en faire des chefs de cuisine, tout simplement pour en faire des meilleurs citoyens, oui. des meilleurs consommateurs. Parce que quand vous connaissez les produits, quand vous connaissez la saison, quand vous avez compris le b.a.-ba de la cuisine, vous êtes totalement autonome pour votre alimentation. Et après, respirer, c'est ce qu'il y a de plus important.
Ouais.
Exactement.
Vous dites les cours de cuisine obligatoires à l'école. C'est la marotte de quelques associations, notamment l'école comestible de la journaliste Camille Labro. Je vous propose d'aller en cours avec justement les enfants qui découvraient ce jour-là la vinaigrette.
Alors les enfants,
qu'est-ce qu'on va faire ?
On va
va goûter les choses.
Non. Alors, cette fois-ci, on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire?
On va sortir des légumes.
On va sortir des légumes. Ah, ça, non, ça on a déjà fait. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va prendre un bol. Et dedans, avec ça. Ça s'appelle comment ça?
Fouet.
Un fouet.
C'est à mélanger.
C'est pour mélanger, absolument. Et dans le bol, avec le fouet, on va mélanger des ingrédients pour faire une...
Vinaigrette.
Vinaigrette.
Non, une patate.
Non, une vinaigrette. C'est toi la patate.
Des enfants de 4-5 ans dans une école maternelle avec un cours qui donne vraiment, on voit que les enfants sont éveillés, ils ont envie de goûter, ça devrait être une base. C'est là la clé des électeurs de demain, peu importe le pays, ce sont ceux qui vont faire demain.
On sait que ça fonctionne, c'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'on participe à des semaines du goût, à des initiatives comme celle-ci que je salue, qui est formidable, mais en périscolaire, ça a toujours ses limites, c'est-à-dire que arrivé à un moment, c'est sur la bonne volonté soit des professeurs, soit des parents, ça a un coût quand même, donc il faut pouvoir l'inclure. Et à travers ça, pourquoi des cours de cuisine obligatoires dès le plus jeune âge? Tout simplement parce qu'à travers la cuisine, on parle de tout. On parle géographie, on parle territoire,
on
parle instruction civique, on parle histoire, on parle mathématiques, on apprend à compter, on parle de saison. Qu'est-ce qu'une saison? Déjà, on pourrait commencer par ça. On parle de la tomate, d'où est-ce que ça vient, dans quel pays, à quelle époque. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire à travers la cuisine. Et une fois de plus, c'est pas en faire des chefs de cuisine. Ça remplacera pas les écoles de cuisine, ce n'est pas le but. C'est juste en faire tout simplement des meilleurs consommateurs. C'est de l'instruction civique. Un cours de cuisine à l'école, c'est de l'instruction civique. On en fait des meilleurs citoyens.
Guillaume Gomez, ça fait longtemps, vous venez de le dire, qu'il y a justement une sensibilisation à la cuisine, mais il n'y a toujours pas de cuisine à l'école. Vous qui êtes ambassadeur auprès du président, y a-t-il un moyen pour qu'enfin il y ait des cours de cuisine dans l'éducation nationale?
On y travaille, vous savez, je pense que la temporalité est bonne. C'est-à-dire que, vous le savez, le président a choisi de faire de cette année l'année de la gastronomie, pas pour fêter les chefs, tout simplement, pour
fêter
la gastronomie française en réaction à cette pandémie où les gens se sont rendus compte que leur alimentation, c'était quelque chose de vital, bien évidemment. C'est juste du bon sens, mais on le sait que c'est quelque chose de vital et qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui vivent de notre alimentation, qui travaillent pour alimenter ce peuple de France. Et donc, il faut vraiment mettre toute cette gastronomie française des territoires en avant. Elle doit partir des territoires. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité, sous le biais de 4 saisons, mettre en avant celles et ceux qui font cette gastronomie avec tout ce qui passe par notre gastronomie. On a établi une charte avec de l'inclusion, avec la saisonnalité, avec la rencontre des producteurs.
Là, on est très franco-français. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous rejoins totalement, évidemment, par la cuisine et l'apprentissage de la cuisine, peu importe le pays. Évidemment, la France se doit presque d'être un exemple, vu son histoire dans la gastronomie. Mais tous les pays du monde ont intérêt à sauvegarder leurs produits.
Exactement.
À connaître, à savoir cuisiner et à cuisiner bien, et bien pour la planète et bien pour soi.
Et vous l'avez dit, j'ai été nommé ambassadeur, j'en suis bien sûr très fier, mais je pense que c'est quelque chose d'important pour tous les Français de savoir que la France est le premier pays à se doter d'un ambassadeur thématique sur la gastronomie, parce que grâce à cette ambassade, nous rayonnons bien sûr à travers le monde et de montrer aux autres pays que ce qui fonctionne pour nous doit fonctionner pour vous. Et en effet, vous avez une richesse de terroir, vous avez une richesse de territoire, vous avez une culture gastronomique, et de préserver vos terres, de préserver votre environnement et de préserver vos savoir-faire, c'est quelque chose d'important et chacun doit être fier de ça. Et la France, quand on organise des semaines de la gastronomie française à l'international, la France, elle n'arrive pas avec une position hégémonique en se disant on a les meilleures gastronomies du monde. Mais par contre, on fait ensemble, on travaille ensemble et montrez-nous vos produits. On va vous montrer comment la technique de la cuisine française à travers le monde peut s'adapter aux produits et aux gastronomies locales. Et ça fonctionne très bien. On sait que ça fonctionne très très bien et c'est quelque chose qui fait que la France est appréciée aussi à l'international.
Des ambassadeurs d'autres pays, il y en a déjà?
Non, je suis le premier.
La
reine d'Angleterre a envoyé cet été, lors de notre rencontre du Club des Chefs des Chefs. Le Club des Chefs des Chefs est un club international fondé par Gilles Bragard il y a plus de 40 ans, qui réunit les chefs de cuisine des chefs d'État. Et la reine d'Angleterre a envoyé un émissaire de Buckingham, en plus du chef de cuisine, pour voir justement quelqu'un de la diplomatie britannique, pour voir quel était mon rôle. Et je pense que d'autres pays vont bientôt nommer en effet des ambassadeurs en charge de leur gastronomie.
Oui, pour mettre en valeur les gastronomies de chacun des pays dont on parle.
Bien sûr.
On a au patrimoine immatériel de l'humanité, nous avons le repas gastronomique, le thieboudienne vient d'être inscrit, le couscous l'année dernière. Ce sont des patrimoines, ce sont des gastronomies.
Ce sont des gastronomies.
Qu'il faut
défendre. Et à travers ces gastronomies et ces plats, une fois de plus, l'histoire d'un pays ou des pays, parce que le couscous, ils sont plusieurs pays à l'avoir proposé à l'UNESCO, mais à chaque fois, c'est des femmes et des hommes derrière avec des savoir-faire. Des fois ancestraux, un travail spécifique de la terre, un travail lié à l'élevage, un travail lié à l'irrigation. C'est pas juste on passe à table et on mange. Il y a vraiment tout un travail derrière qu'il faut valoriser et qu'il faut préserver. Toujours en gardant en perspective, je prends soin de moi, je prends soin de l'autre et je prends soin de la planète.
Y compris pour le repas gastronomique des Français qui ne s'arrête pas à la table, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Pascaline d'Omble Chevalier. Fine escalope pochée dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille. Bouquet d'écrevisses lié d'un sabayon au cédrat.
Mille feuilles croustillant au château Climas, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau, assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuil et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
Pigeon gautier rôti entier, puis terminé à étouffer dans un poivron rouge. Galette d'oignon cébette aux fruits secs, miroir cassis de vin, échalotes confites et traits de chocolat amer.
Les poissons bleus, pavés de bonnet cuits en cocotte, terminés dans un jus de lisette au vadouvant, escabelles de sardines à l'aubergine, poêlés de thon rouge liés d'un sucre de crevettes grises, pissaladières d'anchois frais aux poules de chou.
Les langoustines, trois préparations de langoustines bretonnes, grillées terre de sienne, en tartare et en mousseline, infusion de crustacés au girolles liées de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert.
La charcuterie fine, ballotine de foie de canard au crème de moutarde râpée de chorizo, pâté de veau truffé, chiffonade de poiré rouge, bouillon cultivateur, pelota tartinée d'une pâte de figue aux xérès, l'eau portugais, copa corse et régresse.
Slow Food d'Aston Villa, vous écoutez Le Goût du Monde sur RFI et nous sommes avec Guillaume Gomez.
Bon, alors voilà, soupe aux truffes. On l'a créée en 1975. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des truffes, du foie gras, une matignon de légumes, du mec de bœuf, un consommé de bœuf double et du feuilletage. Alors voilà, donc on met la matignon, le foie gras, le maigre de bœuf, on râpe les truffes. On met à peu près 20 à 25 grammes de truffes. Maintenant, on met le consommé de bœuf, un petit peu de noyer poivre parce que c'est très bon. Et là, on met le feuilletage dessus. Je mets dans le four. On va débarrasser un peu. On ménage. Voilà, ben, et voilà, la soupe aux truffes. Quand le président a eu ça devant lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, il me dit, monsieur, comment ça se mange? Mais le président, je lui ai dit, on casse la croûte. Voilà, ça a été formidable, parce que finalement, c'est tout vos truffes. On l'a fait pour tous les présidents, les rois. C'est-à-dire, on l'avait fait pour, je ne me rappelle plus, Kennedy, on l'avait fait pour la reine Elisabeth, on l'a fait, je me rappelle, on a fait le tour du monde avec cette soupe aux truffes.
Le tour du monde, monsieur Paul Bocuse et sa soupe aux truffes, créée en 1975 lors de sa promotion par le président Giscard d'Estaing au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Guillaume Gomez, vous êtes cuisinier, 25 ans à l'Élysée, aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française, et quand on parle de truffes sous la peau des poulardes, des Saint-Jacques et des brioches, vous en connaissez quelque chose, on est d'accord?
Oui, on a la chance de travailler des beaux produits aussi, c'est vrai, lorsque vous passez près de 25 ans au Palais de l'Élysée. Et merci pour cet extrait, c'est toujours avec émotion que j'entends la voix de Paul Bocuse.
Et son accent.
Voilà, et il parle de cette soupe connue du monde entier sous le nom de la soupe VGE, mais vous voyez, comme dans mon livre d'ailleurs, elle est appelée soupe Élysée aux truffes, soupe aux truffes, puisque c'est son nom originel. Elle s'appelle soupe Élysée aux truffes lorsqu'il l'a fait le 25 février 1975 au Palais de l'Élysée pour sa remise de Légion d'honneur. Et c'est quelques temps après, quand il décide de la mettre à la carte à Collonges, fort bien sûr de ses compétences aussi en communication, que M. Paul décide de l'appeler soupe VGE en hommage à Valéry Giscard d'Estaing.
Et la fameuse croûte qu'effectivement on casse pour pouvoir, enfin bah, j'ai pas eu la chance d'en goûter une encore.
Pour pouvoir accéder à la soupe. Et vous voyez, quand M. Paul l'explique, c'est un plat qui a fait le tour du monde, c'est un plat qui a fait une renommée bien évidemment internationale de la gastronomie française, mais quand vous l'écoutez, c'est très simple. Vous voyez que la cuisine, c'est pas compliqué. Des beaux produits, bien sûr, du travail derrière. Il faut savoir faire un consommé, il faut savoir travailler. Je vous livre la recette dans le livre. Mais c'est quelque chose de très simple et d'accessible vraiment à tous. Parce que, bien sûr, il y a de la truffe, ça a un coût. Mais vous en mettez très peu. Ou si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas.
Oui, on peut en faire avec un autre.
Bien évidemment. Champignon. En fait, après, une fois que vous maîtrisez cette technique, vous pouvez faire une soupe de ce que vous voulez.
Notre cuisine est le meilleur bagage de celui qui vit loin de chez lui. Je pense qu'on est d'accord sur ce constat-là. Ce que l'on mange nous lie à nos origines depuis toujours. D'où le soin et l'importance portée au repas des militaires, comme nous l'avait indiqué l'historien des armées Rémy Porte.
Il y a cette notion qu'on retrouve en France et qu'on retrouve chez toutes les autres nationalités, d'un lien presque physique d'un soldat avec son pays, avec sa famille éloignée, avec sa culture propre, etc., à travers ce qu'il mange. En opération, s'il mange ce qu'ils ont l'habitude de manger, ce qu'ils aiment manger, ce qui correspond à leur culture, les choses se passeront d'autant mieux.
Rémy Porte, qu'on avait interrogé pour parler de la Première Guerre mondiale et de toute cette logistique qui avait été mise en place pour apporter aux soldats sur le front la nourriture de chez eux, de leurs origines. Vous avez, vous, cuisiné pour l'armée française ?
Oui, plusieurs fois. Et c'est vrai que, vous savez, après respirer, s'alimenter, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est vital. L'air, bah, vous le prenez sur place, là où vous vous trouvez. La nourriture, c'est vrai que, en fonction de là où vous êtes, en fonction des pays où vous êtes en opération, bah, c'est quelque chose d'important. Et c'est vraiment ce qui est défini par le moral des troupes. Et j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est un privilège et une chance, grâce au président Emmanuel Macron, qui avait souhaité offrir aux troupes françaises, pendant les opérations Barkhane notamment, un repas de Noël et j'ai eu la chance de partir avec des produits offerts notamment par le marché de Rungis et les producteurs pour faire un repas de Noël des troupes chaque année. Et c'est vrai que c'est quelque chose, cet échange que vous avez avec les militaires quand vous avez des jeunes, parce que la plupart sont quand même très jeunes, hein, ont 20 ans, 25 ans, et vous leur amenez, ils mangent des rations de combat qui sont de belle qualité, hein, les rations de combat de l'armée française.
Et variées. Et prisées.
Et très prisées des autres armées. Mais quand même, quand vous mangez depuis 2 mois, 3 mois, assis sur le sable, des rations de combat, et que d'un coup, vous avez des cuisiniers qui arrivent avec des produits de France. En plus, on s'arrangeait, et grâce aux producteurs et à la générosité du marché de Rungis, pour avoir des produits de toute la France, notamment grâce à nos plateaux de fromage, où vous avez toujours, le gars arrive et il dit, bah, moi, je suis de telle région, bah, tenez, on a ce fromage, on a les volailles qui viennent de là, on a nos clémentines de Corse, ainsi de suite. Bah, forcément, ça crée de l'émotion, et on a vu bon nombre pleurer, parce que bah, la nourriture, c'est quelque chose pas d'important, d'essentiel.
Qui vous rattache totalement à chez vous.
Tout à fait, ça vous ramène à chez vous. D'autant plus quand vous êtes militaire en opération dans des zones de guerre, on le rappelle, où ils risquent leur vie tous les jours. Pendant cette période de fête, qui est la période de Noël où on aime se retrouver en famille, eux sont loin de leur famille. Avoir ce repas qui les relie directement à leur famille, à leur région, à leur histoire, à leur enfance, c'est quelque chose d'important. Et on me demande souvent les très beaux moments de ma carrière. Sur mes 25 ans à l'Élysée, je pense que ce sont ces repas-là qui m'ont plus touché que de faire à manger aux rois, reines et présidents du monde entier que j'ai eu le privilège de servir.
Et votre pâté en croûte, je crois, est resté dans leur mémoire à eux. Je vous propose justement d'aller dans le désert du Mali, où Gaël Lalex s'était rendu sur la base de Ménaka, avec quelques soldats et en cuisine.
Sauce tomate, oignon, boulette kebab, bœuf, un peu des olives. Après, on va utiliser le fromage de chèvre qu'on a dans les rations. Après, on va l'enfourner. Et puis, on attend que ce soit tout bien croustillant.
Il est trop dur.
Expliquez là ce que vous êtes en train de faire.
Bon, on fait une pizza pour tout le monde là, avec un match de foot cet après-midi.
On est au milieu de nulle part, on est à Ménaka pour les auditeurs, on est sous tente, il n'y a pas de clim, vous avez que vos rations de combat. Comment vous faites ?
Ah, on l'achète en ville à Ménaka.
Et après vous bidouillez les rations ?
Oui.
La ration ça vous suffit pas ?
Bah c'est mieux de manger une pizza.
Ça change beaucoup de choses, pourquoi ? Parce que le fait de vivre en collectivité, de ne pas avoir d'ordinaire, de ne pas avoir de wifi, de ne pas avoir de pièces climées, en fait, bah, les gens se regroupent dans un même endroit et ça permet déjà la convivialité et puis la cohésion du groupe. Qu'est-ce qu'on a fait, les pâtes bolo l'autre jour ? Ah, le riz au lait ! Ah oui, le riz au lait. On a fait avec le riz blanc traditionnel, on n'avait pas de riz rond. Et on a utilisé la crème lyophilisée qu'on a. Puis le chocolat aussi des rations, donc on a fait riz au lait au chocolat. On a même fait des roses des sables qui étaient très bonnes, avec les biscuits de ration plus le chocolat, et on l'a mis au frigo. Ça a durci, c'était super bon.
Et tout ça, c'est de la bidouille ?
C'est que de la bidouille.
De la bidouille de ration.
Mais c'est ça la cuisine ? et moi je tiens vraiment à rendre hommage, vous savez j'ai rencontré pendant toutes ces opérations des cuisiniers, je préside une association qui s'appelle les cuisines de la République française qui rassemble toutes celles et ceux qui travaillent pour la République française et on a des chefs de cuisine dans les collectivités et notamment dans nos armées qui font preuve d'imagination pour pouvoir justement satisfaire les autres et en effet quand vous êtes au milieu du désert et que vous pouvez manger une pizza parce que de la pâte à pain on en trouve partout
on peut le faire,
on peut le faire, bah, faut juste avoir le courage de construire un four et eux font vraiment preuve d'abnégation l'organisation pour remplir leur mission, à savoir remonter le moral des troupes et avec ce qu'ils ont. Et ils ne cherchent pas d'excuses et ils font ça. Et moi, j'ai été étonné de rencontrer sur place, je repense à José, à Denis, à plein que j'ai rencontrés sur ces opérations où vraiment, ils vous donnent des leçons. Avec, je ne sais pas si vous avez l'occasion de cuisiner sous une tente ou dans un, ce qu'ils appellent les rat tracks, qui sont des cuisines de campagne, bah c'est là que vous voyez si le cuisinier est bon.
Vous avez parlé des cuisiniers de la République et notamment, on les oublie souvent, les cantiniers. Les premiers, en fait, qui vont donner, en plus de la maison, aux enfants, le goût des bonnes choses.
Exactement.
Et des bonnes choses et du local et du bon sens aussi. Je vous propose d'aller à Poligny, c'est dans le Jura.
Ah, de Mangel.
De Mangel, absolument. Christophe de Mangel qui, attention, collez votre oreille à votre radio parce qu'il parle très 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 vite, Christophe de Mangel.
Le Comté, le Morbier, le Bleu Gex, le Mont d'Or, la Franche-Comté est riche. On a la chance, aussi bien en produits laitiers qu'en légumes, qu'en viande. En viande, ici, on achète des bêtes sur pied, des génisses, hein, chez mon éleveur Rémi Jacquier de Saint-Bonnet-en-Bresse. Ces bêtes, j'ai fait abattre donc, à l'abattoir de Lons-le-Saunay dans Aigle de l'Art. Et ensuite, ben, voilà, je récupère tous les os. Les os, on en fait donc, des fonds de sauce. Les abats, on en fait des fricassés de génisses façon bourguignon. J'ai pas mis le mot abat. Si je mets le mot abat, c'est mort. Par contre, souvent, je fais ça le mercredi en plat. Je leur sers. Et après, je suis dans le chef. Alors, mes petits, vous avez bien mangé? Ah ouais, chef, chef, c'est très, très bonne, le bourguignon. Ouais, très bien. Vous avez mangé quoi? Bah, de la génisse, monsieur. Ah, c'est bien, ouais. Tu sais ce que c'est qu'une génisse? Bah oui, c'est une jeune vache. Ah, d'accord, ok. Ah, tu t'y connais, toi? Ah ouais, mon périculteur. Ah, d'accord, ok. Mais non, mais en fait, vous avez mangé le cœur, le rognon, les foies. Ah, mais chef, non! Non, mais ne dites pas moi non. Dites-moi merci, parce que. Ah oui, c'est vrai, on a bien aimé. Oui. Bah oui, voilà. C'est ça la pédagogie du goût. Alors, je peux être un petit peu vicieux, malin, mais j'en dis la vérité le lendemain. Voilà. Bref. Mais au moins, comme ça, c'est mangé. Et du coup, la poubelle n'est pas pleine. C'est important.
Anti-gaspi, le souci, justement. Christophe de Mangel, dans sa cantine, sert tous les jours aux collégiens des produits faits maison à 70% et pour la plupart, des produits bio.
Non mais ils sont fantastiques, moi je les cite souvent en exemple, Christophe de Mangel, Evelyne Debourg qui a été élue meilleure cantinière de
la
France.
La plus célèbre cantinière de France.
Exactement, mais quand vous parlez avec eux, mais ils vous donnent des leçons, croyez-moi, parce que quand je vous dis qu'on se bat pour revaloriser ce métier de cantinière et de cantinier et de la restauration collective, ce sont les gens qui servent le plus grand nombre de repas par jour, c'est eux qui nourrissent la France, c'est pas les chefs comme moi ou comme mes copains dans les restaurants étoilés Michelin, ce sont eux, et si on veut, on parlait tout à l'heure de mettre des cours de cuisine à l'école, si on veut que ce soit efficace, si on veut que les gens aillent vers une consommation plus responsable, plus engagée. Il faut tout simplement changer les choses. Mais il faut changer les choses partout, en entreprise, à la maison et dans les cantines. Et quand on voit en effet le gaspillage alimentaire, c'est un combat que l'on mène depuis de nombreuses années. Les chiffres de la FAO sont effrayants. 50% de ce qui est produit dans le monde n'est pas consommé. 50%. Alors après, quand on nous parle de coûts, quand on nous parle de non mais ça coûte cher, mais non, ce qui coûte cher, c'est de mal manger. La mauvaise alimentation coûte aux Français 40 milliards d'euros par an. 40 milliards d'euros par an, le cholestérol et le diabète dû à la mauvaise alimentation. Ça coûte cher
pour tout le monde, dans tout le monde entier d'ailleurs.
Exactement, et vous voyez quand vous avez des exemples de chefs comme Christophe ou comme Evelyne qui vous montrent qu'à coût, mais plus que modéré, Evelyne me disait qu'elle avait 1,40€ pour faire à manger, enfin vous voyez, quand on m'explique que c'est pas possible de faire bon, bah, j'explique que c'est juste du bon sens déjà et de la volonté. En effet, c'est du travail, il faut former des cuisiniers, il faut embaucher, déjà il faut mettre des cuisiniers et des cuisinières dans chaque cantine.
Donc de l'espace, et donc là où mettre les stocks.
De l'espace, du travail, c'est un choix politique, donc on le dit bien évidemment aux décideurs politiques, quand c'est les maires, quand ce sont les régions, quand ce sont les présidents de région, les présidents de département, de dire bah, voilà, à quel moment est-ce que vous faites le choix de ne pas privilégier la nourriture, l'alimentation et la santé, je devrais commencer par là, de nos enfants, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisque la cantine, elle coûte de toute façon très cher, et en effet, c'est pas normal que vous éveillez des enfants aujourd'hui qui disent à la cantine, c'est pas bon. Déjà, c'est pas valorisant pour le cuisinier quand il y en a un qui est là, parce que lui, bah, il veut faire correctement son travail, et donc il faut donner les moyens à ces femmes et ces hommes qui sont dans nos de faire quelque chose de bien, de faire bon, parce que c'est par eux que passera cette éducation au goût. Et on sait que c'est possible de faire du bio, de faire du local, de faire du fait maison dans ces cantines, puisque des dizaines et des centaines, à l'exemple de Christophe et d'Evelyne, le font au quotidien.
D'ailleurs, ils sont absolument incroyables. Vous avez dit, la santé, c'est primordial. Ces enfants-là, quand on les regarde, on leur donne à manger une assiette. Peut-être, pour certains, ce sera leur seul repas du jour.
Ouais.
Et il y a une autre question qui se pose. Vous avez parlé de gaspillage alimentaire, de 50% de gaspillage alimentaire. Ça veut dire qu'il y a trop de production. Est-ce que la responsabilité n'est pas aussi en termes de production à la base? J'ai fait un raccourci, mais je pense au fonds européen d'aide aux plus démunis.
Alors bon,
Comment on fait pour manger bien, c'est
très complexe de régler ça. On pourrait faire des heures et des heures de table ronde. Il faut partir en fait sur cette image de qu'est-ce que l'on souhaite de notre gastronomie ? Tout simplement, parce que j'en parlais avec le fils de Coluche il y a quelques semaines à Nantes sur le travail que l'on fait notamment sur l'aide alimentaire. À quel moment, pour sortir des gens d'une précarité, on les emmène vers une autre précarité de la mauvaise alimentation ? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Il y a des associations aujourd'hui qui se montent pour faire des produits frais, pour donner des cours de cuisine. Je pense à la Tablée des Chefs, je pense aux Belles Gamelles. Il y a plein d'associations.
Vers un réseau d'achat en commun.
Et exactement. Il faut qu'on travaille aussi tous ensemble là-dessus. Le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, les chiffres de la FAO, donc qui gère ça pour les Nations Unies, c'est 50%, c'est dans le monde. Parce que quand vous décidez d'acheter une pomme qui a cette forme-là et pas l'autre, bah, faut savoir que pour vous sélectionner une pomme bien ronde, il y en a trois qui passent au tas. Et ainsi de suite. Tout est comme ça. Et donc, une fois de plus, c'est un choix politique que vous faites. Le consommateur a le pouvoir là-dedans. Mmh. À quel moment est-ce que vous faites le choix d'aller acheter du pain de mie industriel au supermarché ? Dans ce cas-là, venez pas vous plaindre que la boulangerie de votre village ferme. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mmh. Donc, c'est un choix qu'il faut faire. Une fois de plus, ce ne sont pas que des belles paroles. Il faut aller tous ensemble vers ça. Et c'est pas facile. Parce qu'en effet, il y a des pas en arrière à faire. Il faut arrêter de consommer de la tomate mozzarella au mois de janvier. Donc, il faut arrêter d'en vendre, il faut arrêter d'en produire, il faut arrêter d'en manger. Parce que si vous n'arrêtez pas d'en manger, ils vont continuer d'en produire, ils vont continuer d'en vendre. Donc, c'est compliqué. Il faut accepter petit à petit d'aller vers ça. Et si la médiatisation de cette gastronomie a un bon côté, c'est celui-ci. C'est de faire découvrir aux gens qu'en effet, il y a une saisonnalité. Ce qui était juste du bon sens il y a 50 ans. Voilà, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, il faut apprendre ce bon sens. Il faut apprendre tout ça. Et en effet, ça passera par une meilleure alimentation pour tous et partout, sur tout le territoire. Peu importe vos moyens, peu importe où vous êtes sur le territoire de France, je pense qu'une des valeurs, en tout cas, de ce qui fait la France, c'est aussi de pouvoir accéder à une meilleure alimentation. À quel moment on en parlait ? Et on y travaille avec les ministres, le ministre de l'Agriculture, avec le président de la République, c'est un sujet vraiment important pour eux, c'est cette meilleure alimentation pour nos enfants. Et c'est à quel moment est-ce qu'un homme, parce que je pense que ça peut être qu'un homme, c'est pas une femme qui a réfléchi à ça, il y a X années, a décidé qu'un enfant en cantine à Paris, à Strasbourg, à Nice, mangerait la même chose qu'un gamin à Washington, savoir des nuggets frites. À quel moment ? Moi, ça ne me choquerait pas, et ce n'est pas un repli vers soi, si le gamin en Bretagne, il mange un peu breton à la cantine, et peu importe. Et il y a des non-sens écologiques, économiques et gustatifs tout au long de l'année dans nos cantines à cause de ça. Donc il faut laisser faire ceux qui savent faire, à savoir les femmes et les hommes qui travaillent dans les cantines, et leur donner la possibilité de faire. Et ils feront forcément de bon sens, ils feront forcément de saison, et ce sera forcément meilleur pour soi, ce sera forcément meilleur pour la planète, et ce sera meilleur pour notre portefeuille. Parce qu'une fois de plus, le produit, quand il est de saison, est local, c'est là où il est le meilleur et moins cher. Ça n'a pas de sens, mais vous savez qu'aujourd'hui, on consomme dans nos cantines des poulets qui viennent du Brésil ou du Pakistan, alors qu'on a des éleveurs de volailles tous les 50 km, alors qu'on tue nos poules qui font des œufs tous les 18 mois, qu'on congèle et qu'on envoie en Afrique, alors qu'on pourrait faire une poule au pot ou un pot-au-feu de volaille ou un chip parmentier de poule toutes les semaines et ainsi de suite. Donc vous voyez, il faut juste retrouver un petit peu de bon sens et appuyer sur pause 30 secondes. Que moi je le dis à tous les acteurs politiques que je rencontre au fur et à mesure, que ce soit les maires, les présidents de région, de département, mais regardez ce qui se passe dans vos cantines, il suffit pas juste de mettre le sanitaire en avant, ou l'économique en avant, parce que ça coûte très cher. Donc moi quand je parle de ça, quand on fait des débats sur la cantine, on dit oui mais on peut pas mettre plus, on peut pas, mais c'est pas une question de mettre plus, c'est une question de mettre mieux.
Mettre mieux, mais c'est comme l'agro-industrie, j'ai envie de dire, les grands industriels de l'agro, c'est leur responsabilité aussi de produire mieux.
Ça fait partie de leur responsabilité. Je leur ai parlé, parce qu'une fois de plus, moi je fais partie de ceux qui pensent que l'industrie agroalimentaire, un, c'est pas l'ennemi, et deux, on fera pas sans, on pourra pas nourrir 70 millions de Français juste avec nos artisans.
Ils font partie de l'équation, c'est indéniable, de toute
ils
manière.
Ils font partie du
peu
paysage,
le pays, d'ailleurs,
de tout ça.
France
mais l'agro, enfin, c'est ce que je leur ai dit. Déjà, vous avez une responsabilité, en effet, vous l'avez dit, parce que quand vous êtes un professionnel de l'agroalimentaire français, vous n'êtes pas un professionnel de l'agroalimentaire chinois, américain, ou peu importe. Vous êtes français, vous défendez des valeurs, et je pense que le bien manger, c'est une valeur française. Mais l'agroalimentaire, c'est ce que je leur ai dit, je les ai vus en face de moi il y a quelques temps, je leur ai dit, mais vous, enfin, non seulement vous n'êtes pas l'ennemi, puis vous, ce que vous voulez, c'est pas faire de la mauvaise qualité, c'est faire de l'argent. Donc il suffirait que les gens achètent de la bonne qualité pour qu'ils ne fassent que de la bonne qualité. Et je les ai remerciés. Il a fallu passer par des scandales de lasagne au poney pour que les gens commencent à lire les étiquettes et à regarder ce qu'ils mangent. Donc il a fallu malheureusement passer par tout ça pour que les gens aujourd'hui prennent conscience de ça. Et aujourd'hui, l'agroalimentaire, et on le voit dans les offres qu'ils font, les gens veulent moins de sel, ils mettent moins de sel, ils veulent du local, ils mettent du local, vous voulez de la viande française, 100% de viande française, et ainsi de suite. Bon, bah voilà. Donc je pense que, un, on va dans le bon sens, et c'est que on pourra le faire seulement si tous ensemble on souhaite changer les choses et qu'on change activement les choses.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Yeah.
kafaliana untun dizi buntul at tera kafaliana fami sent izoni unz mi sent u amina mi at fami sent izoni unz sent o aminão sua 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 sua
sua du malgache Tani Manga sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue à tous. Nous sommes avec Guillaume Gomez, le premier ambassadeur de la France pour sa gastronomie et donc du terroir de la transmission, de l'amour, du pardon, la passion de son métier, Guillaume Gomez, qu'il incarne. On n'a pas choisi évidemment ce chanteur malgache par hasard. Quel est votre travail à Madagascar? Vous avez créé deux écoles?
Oui, alors j'ai eu l'opportunité, la chance, parce que je pense que ça fait partie aussi de ces moments de vie, de faire des rencontres. Et j'ai rencontré deux hommes qui sont fantastiques. Alors, ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux parce qu'ils sont vraiment d'une humilité incroyable, mais c'est les frères Ismaïl, Mathias et Gauthier. Et ils sont venus me voir il y a quelques années parce qu'ils ont une école à Madagascar et ils offraient des cours de cuisine. Ils scolarisent en fait gratuitement 1500 enfants de la maternelle jusqu'à la troisième. Et puis après, ils ont plein de possibilités de leur proposer autre chose. Et ils voulaient leur proposer un petit peu de cuisine et de restauration. Et donc, ils voulaient m'acheter des livres de cuisine, cuisine leçon pas à pas, pour leurs élèves, 10 livres de cuisine. Et je leur explique que bah, si c'est pour une association, vous n'allez pas les acheter. Je dois être le seul auteur à acheter ces livres et pour les donner à des associations. Et je rappelle que l'intégralité des droits des 5 livres que j'ai faits partent pour des associations. Et donc, bon, ils achètent des bouquins quand même, ils y tiennent, et ils me disent, bah, écoutez, si vous avez l'occasion de venir sur Madagascar, venez voir ce qu'on fait. Ils produisent la meilleure gambasse du monde, qui est la gambasse aux os de Madagascar. Et un jour, il y a un voyage de presse qui est organisé avec TF1, et je pars à Madagascar. Et là, bien évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de voir tout ce qui est la production de ce produit d'exception, qui est la gambasse. C'est une gambasse endémique de cette région, comment est-ce qu'elle arrive à obtenir cette qualité, et au-delà de ça, je me rends compte sur place de tout ce qu'ils font, comment ils scolarisent les jeunes, comment ils ont créé un hôpital, comment ils ont mis de l'électricité dans les villages alentours. Et je me dis, bon, au-delà d'être des hommes formidables, enfin, je leur dis, mais comment est-ce que je peux vous aider plus que de donner 10 livres de cuisine? Parce que je me sens pas ridicule, mais
vous presque. Vous aviez envie de vous investir de toute
bah
façon.
Oui, c'est aussi ça, je pense, la France. C'est de se dire, vous savez, quand on parle de ces valeurs de France, bah, c'est aujourd'hui ces jeunes malgaches. Ça a été le cas au Sénégal. On a parlé rapidement du Sénégal tout à l'heure, où j'ai pu, avec Vision du Monde, mener des opérations dans les écoles. C'est, je pense, important que les gens se disent, oui, on vient faire ça sans aucun intérêt, et c'est ça la France. Et les gens, après, ont une belle image de la France. Et donc, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah écoute, si tu le souhaites, nous, on peut, cette école, lui donner ton nom, et comme ça, tu t'investis un petit peu. Donc, je verse de l'argent chaque année, et je les aide à trouver des financements. Donc, en toute humilité, cette école s'appelle Centre d'excellence culinaire Guillaume Gomez. Pourquoi d'excellence? Parce que j'explique à ces jeunes que peu importe d'où ils viennent, parce que là, on parle quand même de jeunes qui sont au nord de Madagascar, qui sont les primo-accédants à l'éducation. Le mot école n'existe même pas dans leur dialogue. Il a fallu qu'ils expliquent aux parents pourquoi ils allaient enfermer des enfants. Voilà, on part vraiment de très très loin. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'aujourd'hui, par cette éducation à l'alimentation, par ce travail, vous deviendrez forcément quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est pas une promesse en l'air, puisqu'on en est aujourd'hui à la troisième promotion, et tous ces jeunes partent dans les hôtels et restaurants de la région, à savoir dans tout l'océan Indien jusqu'à l'île Maurice. Donc j'ai deux écoles à Madagascar et une qui va ouvrir à l'île Maurice pour former des jeunes au métier de la restauration. Et une fois de plus, le but c'est pas de les faire venir en France, le but c'est qu'ils puissent vivre dans leur pays et qu'ils puissent
avoir
vivre
un métier
dans leur région, avoir un métier et devenir quelqu'un et subvenir aux besoins de leur famille. Et la deuxième école à Madagascar est à Kamachou, en partenariat dans un des villages du Père Pedro, où nous avons acheté un terrain que nous avons donné à la communauté du Père Pedro et où nous avons monté une école.
Vous faites bien de le préciser d'ailleurs qu'il faut bien ouvrir son regard, parce qu'on a parlé de la cantine un peu de manière un peu enflammée. On a de la chance beaucoup en France d'avoir des cantines scolaires, d'avoir des écoles. Il y a beaucoup de pays où on ne va pas à la cantine, donc ce lien avec l'alimentation se fait parfois autrement, avec des potagers même. Parfois il y avait l'association Slow Food, ouais, qui promeut une alimentation de qualité respectueuse de la terre, qui avait lancé toute cette opération des potagers dans les écoles en Afrique. Est-ce que ça c'est un pilier aussi de cette année de la gastronomie que de préserver certaines espèces?
C'est essentiel, puisque cette gastronomie française, une fois de plus, je le redis, mais elle ne passera que par le bon sens. Moi, ça n'aurait pas de sens de monter une école à Madagascar en leur expliquant qu'il faut du poulet de Bresse, il faut des tomates. Non, c'est, ce qu'on leur apprend, c'est les techniques de la cuisine, avec les produits qu'ils ont sur place, qu'ils font pousser. Et on a des potagers avec la viande qu'ils peuvent trouver, avec le poisson qu'ils peuvent trouver.
Les zébus et les brèdes.
Exactement, c'est la technique qu'on leur apprend. Et c'est cette technique qui est transposable à toute la gastronomie du monde. Et chaque territoire, et chaque Française et chaque Français doit être fier de sa gastronomie, de sa région, de son village, de son pays. Et c'est ça qu'on met en avant, parce que cette pluralité de cette gastronomie des terroirs et des territoires qui fait la gastronomie française. Et on a besoin de ça. Et en effet, je pense que ça passera par là. Et que si on retrouve un petit peu de bon sens, la cuisine, quand elle est de bon sens, elle est forcément et locale et de saison, et bonne pour la santé, et bonne pour soi, et bonne pour l'environnement.
En France également, le slow food dont je parlais a créé cette alliance de l'Arche. Donc des produits qui sont menacés de disparition. Le camembert, d'ailleurs, a été dans cette Arche à préserver, le camembert au lait cru. Je vous propose de faire un tour dans le Perche, où le cuisinier du restaurant Pertica, Guillaume Foucault, travaille avec un éleveur pour recréer une race qui était endémique de cette région, qui s'appelle la percheronne. Je vous propose d'écouter Jérôme Ogis.
Elle était ici il y a 100 ans, c'est plus 100 ans que 40. 40, elle avait déjà disparu des troupeaux d'ici. Quoi. Ici, c'était fait pour produire du lait, du coup, c'est la Normande qui a plutôt pris la place. Oui. Et ensuite, la Primochtagne qui est vraiment faite pour la production laitière et du coup, pas du tout pour la viande.
Et la percheronne, davantage pour la viande ?
Complètement pour la viande. Hein. C'est vraiment une race à viande et qu'à du lait pour nourrir son veau, mais c'est tout. Quoi. Elle n'a pas d'excédent de lait pour autre chose. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, la sanoise, elle a bien été identifiée avec 4 robes. Une robe caille blonde, une robe durham, une robe mancelle et une robe percheronne. C'est celle-là qui est nos origines, quoi, réellement. Et c'est qu'au travers de la race sanoise qu'on peut retrouver notre robe percheronne. Quoi.
Vous, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ?
Je suis attaché à mon territoire, du Perche. J'avais déjà un troupeau à viande. Ça compte beaucoup, quoi. On ne se lance pas comme ça. Hein. C'est... Et puis après, voilà, la passion et des animaux et du territoire fait que ben, voilà, si on peut rapprocher les deux, si on... le paysage aussi, parce que je suis très attaché. L'ensemble fait que si on peut valoriser et faire connaître davantage notre territoire aux Français et pourquoi pas au monde, ben, je serais ravi là-dessus. Et si mes enfants peuvent bénéficier de ce travail-là, ça sera très bien.
Jérôme Ogis, et donc cette percheronne est effectivement née.
C'est fantastique.
C'est la préservation aussi de tout un patrimoine.
C'est la préservation d'un patrimoine, d'un savoir-faire. Et puis c'est montrer tout simplement qu'on a en France, on a près de 14 races à viande différentes, qui fait que bah, vous mangez différemment du nord au sud et d'est en ouest. Et qu'on ne veut pas que notre gastronomie soit uniforme partout sur le territoire, parce que ça n'a pas de sens, c'est pas ça la France. Et on doit manger différemment, que vous soyez dans le nord, au sud. Et on sait que ça fonctionne. Avant d'être ambassadeur pour la France, pour la gastronomie, j'ai été nommé il y a quelques années ambassadeur pour les Nations Unies sur la préservation des appellations. Et on sait que ça fonctionne. Et la France est là pour le montrer. Et on parlait avec des producteurs de riz, notamment thaïlandais. Je leur donnais l'exemple du porc noir de Bigorre, dont je parle souvent. Le porc noir de Bigorre, c'est une race qui n'existait plus. La race de petits cochons en Bigorre. Et c'est quelques producteurs qui ont décidé, il y a maintenant quelques années, de remettre ça en production et de faire de la qualité. Et par le travail de qualité, par cette préservation des savoir-faire, on sait que ça fonctionne. Les éleveurs vivent correctement de leur travail et ont une juste rémunération de leur travail. Et en plus de nous fournir un produit d'excellence et d'exception. Et ce qui fonctionne pour nous, ça fonctionne pour tout le monde. Que vous soyez producteur de volaille en Afrique, on parlait tout à l'heure de l'Afrique, il y a des jeunes en Afrique qui essayent de faire de la production locale de qualité. Bah, il faut les encourager. Et si ça passe pas par la gastronomie, vous savez, tous ces producteurs dans le monde entier, le débouché, c'est, ils font pas des produits pour les voir pousser ou les voir grandir. Ils font des produits pour qu'il y ait un débouché dans leur gastronomie locale. Et le rôle de chaque chef de cuisine à travers le monde, il est celui-là. Moi, je comprends pas, et je le redis encore à votre antenne, comment est-ce que des copains, pourtant chef de cuisine, continue de mettre en avant de la viande de Kobe, de la viande de Simmental, de la viande de Galice. Ce n'est pas notre travail. Moi, je suis très content de découvrir et d'aller manger de la viande de Galice lorsque je suis en voyage en Espagne. Quand je suis ailleurs en France, j'aime manger nos viandes françaises. On a des producteurs qui se lèvent le matin pour ça. Bah, après, il ne faut pas s'étonner si nos artisans ne remplissent pas ce rôle-là aussi, d'être la vitrine du territoire de France qui ait des soucis de production. On parle souvent, oui, mais on a fait un travail énorme avec les bouchers depuis de nombreuses années. je tiens à saluer vraiment leur engagement. Vous savez, pour faire dire à un boucher il y a 20 ans qu'il fallait manger moins de viande, ça se terminait presque en bagarre. Hein. C'est eux qui ont inventé le flexitarisme, c'est eux qui ont fait mettre les caméras dans les abattoirs. Personne ne peut être d'accord, même quand on est carnivore, mangeur de viande, avec des images que l'on a pu voir de certains abattoirs, et les bouchers en premier. Et donc c'est grâce à la Fédération des bouchers qu'on arrive aujourd'hui à aller vers une alimentation plus respectueuse de tout ça.
Du bien-être animal.
Du bien-être animal.
De l'élevage.
De consommer moins de viande, mais de meilleure qualité, et de nos races françaises qui sont un patrimoine gastronomique culturel très important et que le monde entier nous envie. Donc moi j'appelle toutes celles et ceux qui ont la responsabilité, une fois de plus c'est un choix, à quel moment est-ce que quand vous faites votre carte, vous décidez de mettre de la viande allemande, belge, espagnole ou japonaise plutôt que de mettre de la viande française. Une fois de plus, hein, c'est pas un discours de faire que du local, il faut accepter nos producteurs, et j'en connais un certain nombre, qui vivent également de nos exportations, donc il faut accepter que l'on importe des produits, mais en tout cas autant que faire se peut dans une certaine variété de consommation, quand vous êtes dans un 3 étoiles et que vous allez manger de la viande qui vient du Japon, pourquoi pas, vous le savez, vous faites la démarche. Mais ce n'est pas ça qui va faire partager la balance. Par contre, quand vous êtes aux responsabilités d'une cantine, quand vous êtes aux responsabilités d'un restaurant d'entreprise et que vous choisissez, parce que c'est 40 centimes de moins au kilo, de prendre telle ou telle viande, telle ou telle volaille, comme je vous citais tout à l'heure, les poulets brésiliens, eh ben c'est un non-sens. C'est un non-sens gustatif, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens écologique.
Un non-sens tout simplement.
Voilà. Retrouvons le bon sens dans notre assiette.
Guillaume Gomez, c'est terrible parce que cette émission se termine et nous n'avons pas parlé de deux pans très importants de la gastronomie française, déjà les vins, les spiritueux, qui sont un des piliers économiques de la France, dont on est très fiers. Et du service.
Ah ben, ça ne va pas sans l'autre. Vous savez, quand on parle de gastronomie, souvent les gens essayent d'opposer, dire non, mais il ne faut pas oublier de parler de ceci, il ne faut pas oublier de parler de cela. Mais en fait, on n'oublie pas, parce que quand on parle gastronomie, on parle de tout ça. Bien évidemment, cette gastronomie française, elle ne se ferait pas. Vous avez parlé du repas gastronomique des Français qui est classé à l'UNESCO. Tout est important. Les arts de la table, le service en salle, les digestifs, le vin,
les artisans qui fabriquent les casseroles,
exactement.
Les fours.
Non, mais tout est important dans notre gastronomie. Et en fait, il ne faut pas être jaloux des uns ou des autres. Et moi, je pars du principe, quand il y en a un qui brille, il éclaire les autres, et je suis très heureux quand il y a un grand fromager qui parle à la télé, quand c'est un maître d'hôtel qui met en avant son métier, et ainsi de suite, parce que c'est cette équipe de France de la gastronomie, et je le dis souvent, dont nos producteurs et nos agriculteurs sont les capitaines, puisqu'on ne ferait rien sans eux, puisque nous, nous sommes que des transformateurs ou des opérateurs, mais en tout cas, on ne ferait rien sans ces produits, mais c'est une fois de plus tous ensemble qu'on peut changer les choses et qu'on va changer les choses.
Bon, je vais vous poser une question difficile, je sens.
Allez-y.
Un ingrédient et un ustensile, c'est un peu une tradition dans notre émission, qui serait synonyme pour vous de la gastronomie française?
Le beurre, parce que c'est quand même quelque chose. Autant il y a des très bonnes huiles dans le monde entier, autant le beurre, ça reste quand même français.
D'accord. Et l'ustensile?
Un petit couteau. Moi, je pense que la meilleure des inventions, ça a été le couteau d'office, qui sert un petit peu à tout, à faire beaucoup de choses, et notamment quand on goûte, quand on teste. Et je pense que c'est un très bon couteau, et tout le monde devrait avoir au moins un très bon couteau d'office dans sa cuisine.
Voilà. Merci, Guillaume Gomez.
Merci à vous.
Vous reviendrez nous parler de cuisine, de fourneau, de casserole, de savoir-faire. C'était un plaisir, en tout cas, de vous
Merci
avoir avec
vous.
Nous. Évidemment, on ne se quitte pas vraiment, puisqu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. On cuisine avec vous grâce à vos livres, à la cuisine en pas à pas, à la table des présidents aussi, la cuisine en pas à pas pour les enfants
pour
également.
Les enfants.
En attendant, les fruits et les légumes, je crois.
Exactement.
C'est dans les tuyaux.
Vous savez tout. Prochaine sortie au mois de mars, sur simplement de se dire que c'est du bon sens que de retrouver une gastronomie avec plus de végétal et laisser plus de place au végétal dans notre assiette. Parce qu'il n'y a pas un produit comme les fruits et légumes qui vous apporte une différence de texture, de goût si variés que les fruits et légumes, et je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Et il était temps peut-être que les Françaises et les Français se disent oui, on peut faire des plats très gourmands avec des fruits et légumes. Et l'idée, c'est de se dire que sur les 7 jours de la semaine, entrée, plat, dessert, déjeuner, dîner, bah, vous puissiez de temps en temps faire une entrée végétale, un plat végétal ou un dessert qu'à base de fruits, et ramener un petit peu plus de végétal dans votre alimentation.
Et moi, je vous écoute et je pense à votre terrine d'agrumes, donc tout va bien. Et vous, racontez-nous la gastronomie de votre pays. Sommes-nous à l'aube d'une révolution des délicieuse. Un mot sur WhatsApp 33 6 43 16 15 66 ou bien sur l'appli sur laquelle vous nous écoutez Le Goût du Monde en podcast. Cécile Benissier a réalisé cette émission. Toutes les deux, nous voulions dédier ce Goût du Monde à Françoise Hollmann qui nous a quittés. Elle a toujours cru en Le Goût du Monde par conviction et sans doute aussi par goût de la vie. Que la terre te soit légère, Françoise, nous ne t'oublierons pas. Prenez bien soin de vous tous et des vôtres. À samedi prochain, on vous attend.
À l'heure sur RFI.